Il est 21h30 à Paris, 1h de moins à Tunis, 19h30, temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Vague de réaction en Tunisie après le verdict du procès inédit d'une quarantaine de personnalités, dont des figures de l'opposition accusées de complot contre la sûreté de l'État. Hier, au terme d'une journée d'audience, les prévenus ont été condamnés à des peines de prison allant de 13 à 66 ans. En République démocratique du Congo, réaction prudente du gouvernement au retour annoncé de Joseph Kabila dans l'est du pays. Selon des sources sûres, l'ancien président congolais était hier à Goma, la capitale du Nord Kivu, ville sous contrôle de la rébellion AFC M23, soutenue par le Rwanda. Et puis du football, avec la première rencontre allée des demi-finales de Ligue des Champions africaines, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns n'ont pas réussi à prendre l'avance contre les Égyptiens d'Al Ahly. La confrontation s'est achevée sur un score nul et vierge, 0-0. Elles étaient jugées pour complot contre la sûreté de l'État en Tunisie. Vendredi, au terme d'une journée d'audience, une quarantaine de personnalités, dont des figures de l'opposition, ont donc été condamnées à des peines de prison allant de 13 à 66 ans. Un verdict qui suscite une vague de réactions, notamment celle des familles des condamnés, qui affirment que les conditions d'un procès équitable n'étaient pas réunies. Écoutez ce qu'en dit Monia Brahim, épouse du détenu Abdelhamid Gelassi, ancien dirigeant du parti islamiste Ennahda, condamné à 13 ans de prison.
Pour moi, ce jugement n'a aucun sens, tout comme les autres sentences qui vont de 4 à 66 ans de prison. La plus lourde étant pour l'homme d'affaires Kamel El Tayef. C'est vraiment inouï. Et en même temps, nous nous y attendions depuis que cette affaire a commencé et depuis les premières arrestations en février 2023. Tout était problématique. La façon dont le dossier a été monté de toutes pièces, les détentions arbitraires prolongées des détenus et enfin, ce procès expéditif avec seulement 3 audiences, ça ne pouvait pas déboucher sur un autre jugement que celui que nous avons eu ce matin. Cela confirme que nous faisons face à une justice qui est mise au pas, qui prend des décisions sur des dossiers politiques, donc tout cela n'a rien de surprenant. Malheureusement, ce n'est pas une décision judiciaire, mais une décision qui reflète le système politique dans lequel nous vivons.
Propos recueillis par Lilia Blaise, et puis pour l'organisation Human Rights Watch qui a pu lire l'ordonnance de renvoi des accusés. Les graves accusations ne reposent sur aucune preuve crédible. Fin de citation. Kamel Gendoubi, l'un des accusés en exil, a dénoncé lui une décision politique exécutée par des juges aux ordres, des procureurs complices et une ministre de la justice, bras armés dans un autocrate paranoïaque. Rappelons que depuis le coup de force du président Kais Saied à l'été 2021, par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs, ONG et opposants dénoncent une régression des droits en Tunisie. Au Tchad, plus d'une centaine de détenus de la prison de haute sécurité de Mongo dans le centre du pays ont réussi à s'évader, et cela à la faveur d'une fusillade qui a fait au moins 3 morts, selon des sources citées par l'agence France-Presse. En République démocratique du Congo, le mystère reste entier autour du retour annoncé de Joseph Kabila dans l'est du pays. Selon des sources sûres, l'ancien président s'est rendu vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, une ville sous contrôle de la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. Alors est-il toujours à Goma, comme l'affirment certains, ou de retour au Rwanda, comme l'indiquent d'autres sources? Pour l'heure, l'opposition et la société civile restent silencieuses et attendent de connaître les intentions de celui qui a dirigé le pays de 2001 à 2018. Du côté des autorités de Kinshasa, l'heure est à la réserve. Ainsi, ce samedi à Lubumbashi, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Pascal Mouyaya, a abordé le sujet avec beaucoup de prudence.
Bon, moi, je n'ai pas vu, j'ai entendu, évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer des certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il disait que son prédécesseur était lié à l'AFC depuis plusieurs mois. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, parce qu'il faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées. Nous sommes plutôt au serein, derrière le président de la République, avec la stratégie qu'on a mise en place, sur tous les fronts, qui nous permettent, non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours.
Propos recueillis par Pascal Moulégois. Et puis on reste en RDC où le bilan de l'incendie survenu en début de semaine dans une embarcation sur le fleuve Congo a été revu à la baisse par le maire de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il est désormais de 33 morts et 195 rescapés. Un précédent bilan publié vendredi faisait état d'au moins 143 morts. Et puis toujours selon le maire de Mbandaka, la confusion initiale dans les bilans peuvent s'expliquer, les confusions initiales dans le bilan peuvent s'expliquer par des amalgames faits avec les bilans de naufrages antérieurs qui sont fréquents sur le fleuve Congo. Les recherches se poursuivaient ce samedi. Le vice-président équato-guinéen a démenti ce samedi sur le réseau social X une information de presse selon laquelle de jeunes équato-guinéens seraient envoyés sur le front en Ukraine aux côtés de l'armée russe. Pour rappel, selon le journal en ligne Diario Rombe, basé en Espagne et proche de l'opposition équato-guinéenne en exil, les accords militaires entre Malabo et Moscou incluent une opération de recrutement pour le conflit en Ukraine. Faux, écrit le vice-président de la Guinée équatoriale. Les jeunes équato-guinéens qui vont en Russie ne partent pas à la guerre, mais se forment dans les prestigieuses universités de la Fédération de Russie. Fin de citation. Un Indien arrêté avec plus de 2 millions de dollars en cash dans sa valise à l'aéroport de Lusaka. L'homme de 27 ans se rendait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, lorsqu'il a été repéré par des douaniers zambiens à l'aéroport international Kenneth Kanda. En football, avec un match nul 0-0, les Mamelodi Sundowns n'ont pas réussi à prendre de l'avance contre Al Ahly. Match nul pour cette première rencontre aller des demi-finales de Ligue des Champions africaines. Lors de leur dernier affrontement à Pretoria, les Mamelodi avaient gagné 5-0. Cette fois, l'équipe du Caire s'est adaptée avec une très grosse pression défensive, très organisée du début à la fin pour ne laisser aucun espace. Les Mamelodi doivent donc maintenant gagner à l'extérieur lors du match retour. Denis Onyango est au micro de Valentin Hugues juste après le match.
Bien sûr qu'il y a de la déception. D'habitude, on marque des buts à domicile. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu cadrer le moindre tir. Parce qu'ils ont été très disciplinés. Ils savaient que s'ils ouvraient un peu le jeu, on trouverait des occasions. C'est vraiment une équipe difficile à jouer. Ils n'auraient pas aimé perdre une nouvelle fois chez nous. Donc ils étaient très compacts en défense, avec 5 joueurs à l'arrière et en bloquant le milieu de terrain. Je pense qu'ils vont un peu plus ouvrir le jeu au Caire. Mais leur stratégie montre qu'ils respectent le jeu, qu'ils respectent que la dernière fois, ils avaient encaissé 5 buts chez nous. Aujourd'hui, ils se sont adaptés. C'est une grande équipe, les champions en titre, ils savent être prudents. Maintenant, on espère le meilleur. On a encore une chance et nous avons toutes les qualités pour aller en finale.
Un propos recueilli par Valentin Hugues. Et puis 0-0 également dans l'autre demi-finale opposant les Orlando Pirates aux Pyramids. Enfin, notre rendez-vous quotidien cette semaine à Abidjan à la faveur de la 17e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anomambo en Côte d'Ivoire, sont attendus ce samedi soir sur la grande scène. Caris, Marty et la chanteuse La Josée. Le FEMUA, événement qui prône la musique et la responsabilisation avec cette année le thème de la sécurité routière. Autre volet du festival, mettre en avant les valeurs de la tradition en réunissant tous les chefs coutumiers du village d'Anomambo, le village natal des membres du groupe Magic System. Cérémonie traditionnelle ce samedi sous le regard de notre envoyé spécial Guillaume Thibault.
Rappelez à tous que la tradition est l'identité du village. Qu'en la respectant, chaque individu progresse, s'instruit, trouve sa place. C'est l'un des objectifs du FEMUA Tradi.
Ça montre qu'Anomambo, c'est la solidarité. Et ça montre que nous sommes un, nous avons une seule religion. Et notre religion, Anomambo, c'est l'amour.
Nandji Vincent de Paul est directeur de cabinet du chef coutumier d'Anomambo. Salif Traoré, alias Asalfo, commissaire général du FEMUA, aime rappeler que la musique moderne de Magic System a ses racines dans la tradition.
Même le zouglou que nous faisons, c'est source de notre tradition, de la musique du terroir. Donc on s'est dit qu'il fallait faire un clin d'œil et essayer à travers le FEMUA de rapprocher les peuples.
Invité d'honneur de ces retrouvailles coutumières, la chefferie du Haut Sassandra, de la région de Daloa, où le FEMUA sera délocalisé ce dimanche, Guina Laobertin est porte-parole du chef traditionnel.
Au niveau du Haut Sassandra, c'est d'abord le respect. Et puis l'apprentissage, il faut apprendre. Quand on vient, il faut apprendre auprès des anciens. Voilà pourquoi on est là.
Réunissant toutes les générations du village d'Anomambo, cette cérémonie du FEMUA Tradi montre que dans un monde en tension, les traditions séculaires sont plus que jamais un socle de stabilité. Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
RFI à Abidjan, où il est actuellement 19h40.